Je vais passer la parole directement à Nathalie Primenko et puis après, moi, je ferai mon exposé d'une façon certainement inédite et régulière, parce que j'ai vu qu'on a la chance que Frédéric Vitoux nous ait rejoint d'Académie française et je l'en remercie vraiment beaucoup. Donc, je laisse la parole à Nathalie Primenko qui est professeure de nutrition à l'école vétérinaire de Toulouse. Et qui va nous parler d'un sujet dont on avait forcément parlé il y a 30 ans déjà, la nutrition des chats, et qui connaît la nutrition des chats, c'est comme les cycles dans le journalisme, c'est comme il y a des modes. Et après le tout croquette, on est en train de revenir dans quelque chose de vraisemblablement plus équilibré et plus plaisant pour les chats.
Bah, merci Anne-Claire. Je crains d'avoir... Non,
ça va,
surtout que j'ai des, surtout que j'ai des diapos en général assez neutres, assez noir et blanc. Bon, c'est quand même mon chat là, bon, en pleine action de chasse dans mon jardin et bon, souvent une très bonne chasse. Alors finalement, est-ce qu'il faut manger? Oui, ben, forcément, il faut manger pour vivre. Mais l'alimentation a aussi un autre rôle, c'est-à-dire qu'au-delà de la nécessité obligatoire. Surtout quand il s'agit d'animaux adultes, l'alimentation même déséquilibrée peut très bien ne pas avoir de conséquences visibles sur l'animal. Et il faut bien imaginer que tout est fait dans la nature pour concourir systématiquement à la vie. Je m'explique un petit peu différemment. Si vous faites des erreurs de rationnement, d'alimentation, que ce soit vous, vos animaux, les animaux qui vont être les premiers touchés, c'est les jeunes. C'est les mères en gestation, les mères en lactation, mais ce n'est pas forcément les adultes, ou du moins les erreurs ne sont pas forcément toujours très visibles. Alors, par contre, si on nourrit mal un animal, on lui enlève la possibilité de vivre longtemps et en bonne santé. Aujourd'hui, donc, les chats sont de plus en plus nombreux, c'est les premiers animaux de compagnie. Et ça va de pair aussi, bien sûr, avec notre vie de plus en plus citadine. Alors, pour être correctement alimenté, il nous faut tout ça. Il nous faut de l'eau, ça c'est le premier besoin, sans eau on meurt très rapidement. Ensuite, il nous faut de l'énergie, l'énergie pour fonctionner, faire fonctionner nos organes, avoir le cœur qui bat, respirer, etc. Ensuite, il faut des protéines, et je vais vous en parler beaucoup, puisque le chat est un carnivore strict. D'autres éléments, certains lipides, peut-être des fibres, des minéraux, des vitamines. Bon, je vais aller très vite, hein, parce que sinon, vous allez être très, très fatigué et très lassé et complètement lassé de cette digestion difficile. Premièrement, l'eau. Nous sommes des espèces d'énormes aquariums, et si nous ne sommes pas des espèces de grosses méduses, c'est parce qu'il y a des cellules qui séparent les différents, enfin des membranes qui séparent les différentes cellules de notre organisme. Mais globalement, on est quand même des organismes extrêmement riches en eau, et toute vie se fait dans l'eau, en fait. On ne connaît pas tellement biologiquement d'autres possibilités. Le chat a une particularité par rapport à d'autres animaux, c'est qu'il boit peu. Naturellement, il vient du désert, il boit un tiers de moins que les autres animaux. Donc il y a deux solutions pour essayer de limiter les risques, en particulier les risques de calcul urinaire, puisque la densité des urines de chat est très élevée physiologiquement. C'est de favoriser la prise d'eau. Alors ça, je vous déconseille. J'avais un chat qui buvait comme ça, d'ailleurs celui que vous avez vu sur la première diapo. Du coup, quand je partais en vacances une semaine et que je le laissais à la maison, parce qu'une semaine, c'était trop court pour l'amener, eh bien, il fallait que je laisse la douche allumée pendant une semaine. Voilà, bon, pas terrible. L'autre manière de donner beaucoup d'eau à un chat, par exemple, c'est de lui donner de l'eau dans un aliment. C'est-à-dire que le chat finit par manger de l'eau. Et c'est-à-dire que si on donne à des chats des aliments humides, il va consommer globalement, entre ce qu'il consomme dans l'alimentation et dans l'eau, beaucoup plus d'eau que s'il ne consommait des croquettes. Bien, et ce graphique montre cela, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'en donnant des aliments humides qu'on arrive à inciter le chat à consommer suffisamment d'eau ici. Hein, c'est plus un tiers que lorsqu'on donne d'autres types d'aliments. et pour que son volume urinaire, du coup, augmente de manière importante, et donc ce qui permet de limiter l'apparition de calculs, quels que soient ces calculs. Bien. Alors, ensuite, comment va-t-on le nourrir? Eh bien, on parlera tout à l'heure assez rapidement de l'énergie, mais on va d'abord attaquer sur les protéines, parce que le chat reste, malheureusement pour ceux qui voudraient le nourrir différemment, un carnivore strict, extrêmement exigeant quant à la quantité et à la qualité de ses protéines. Alors, néanmoins, je mettrai un petit bémol, le chat est quand même capable d'utiliser d'autres nutriments que des protéines pour fournir de l'énergie. C'est-à-dire que le chat peut très bien vivre simplement avec de la viande et quelques minéraux, hein, ça va très bien fonctionner. Mais très curieusement, et d'ailleurs c'est ce que je fais le chat sauvage hein, dans la nature, hein, si on regarde ce qu'il mange, c'est composé uniquement de protéines, de gras et un tout petit peu de glucides, hein, parce que le sang est sucré. Par contre, si on prend des chats domestiques et qu'on leur donne des panels d'aliments différents, ils consomment un petit peu de glucides. Et c'est tout à fait intéressant pour nous. Pourquoi ? Parce que la domestication n'est possible qu'à ce prix. C'est-à-dire que le chat, consommant des glucides, en général de l'amidon, coûte moins cher, entre guillemets, en protéines qu'un chat sauvage. Le chat sauvage utilise ses protéines non seulement pour reproduire, refaire ses propres protéines, mais aussi pour fournir de l'énergie. On fait fonctionner notre chat domestique avec une fourniture de protéines, ça c'est sûr, pour renouveler ses tissus protéiques, mais aussi on peut donner un petit peu d'amidon et non pas des protéines pour lui donner de l'énergie. Néanmoins, il reste un carnivore strict avec des besoins extrêmement élevés, quantitativement, en termes de quantité de protéines, on parlera tout à l'heure, et qualitativement, c'est-à-dire que dans les protéines, il y a des acides aminés essentiels que aucun organisme supérieur ne sait faire, et donc qu'on doit absolument trouver dans l'alimentation. Eh bien, le chat est donc très friand, enfin, il lui faut absolument une grande quantité de ces acides aminés essentiels pour pouvoir vivre. Dans le cas du chat, d'ailleurs, si on arrête la distribution d'un de ces acides aminés essentiels, on le conduit vers la mort. C'est des vieilles manips, mais enfin, ce n'est pas tellement agréable. Bien. Ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est que malheureusement, même si le chat mange 2-3 jours énormément de protéines, il ne les stocke pas. Personne, d'ailleurs, ne les stocke. Et donc, tout ce qui n'est pas utilisé va être éliminé. Alors, c'est éliminé comment ? Une fois que les protéines sont digérées, les acides aminés sont absorbés, sont utilisés pour faire ce que le chat a à faire, renouveler ses propres protéines. Et il y a des protéines partout. Et ensuite, il va excréter l'excès dans les urines. En termes quantitatifs, pour avoir une petite idée, en gros, en quantité de protéines pour un chat adulte, je ne vous parle même pas des chatons ou des chattes en gestation, lactation, c'est 6 grammes par kilo de poids. C'est-à-dire qu'un chat de 3 kilos a les mêmes besoins qu'un tiers d'humain. Ou alors qu'un chat qui pèse 20 fois moins a des besoins 3 fois moindres qu'un humain en protéines. Et ça, il faut vraiment se rentrer ce chiffre dans la tête parce qu'il ne sera du coup impossible de nourrir le chat avec des protéines végétales. Un chat ne peut être ni végétarien ni végan. J'insiste parce que je commence à avoir dans mon cabinet un certain nombre d'animaux et je commence à négocier aussi avec discuter avec des associations de protection des animaux parce que je me demande ce qu'il faut faire. Moi, je les vois arriver et je me demande s'il faut que je porte plainte. Voilà. En termes de spécialiste, ça me pose un gros problème d'éthique. Heureusement, ce n'est pas des enfants, mais bon, quand même. Bien, alors en ce qui concerne ce besoin absolument énorme, il est quantitatif, mais il est aussi qualitatif. Et si, par exemple, on voulait utiliser des solutés de réalimentation de l'homme chez le chat, ça ne pourrait en aucun cas fonctionner. On serait obligé d'aller chercher des acides aminés en plus essentiels à rajouter. Le chat est aussi exigeant d'un certain nombre d'autres facteurs, dont la taurine, qui est un produit issu des animaux et qui a été découvert bien avant de savoir à quoi ça servait en fait. Et c'est grâce au chat, avec la fabrication des premiers aliments pour chat, qu'on découvre à quoi ça sert. La taurine, en fait, dans les premiers aliments pour chats, elle existait parce que les premiers aliments pour chats, on mettait des sources d'origine animale sans aucun problème. Mais cette taurine était en grande partie détruite par les traitements, par la cuisson, par l'extrusion. Et donc, il y a eu toute une série de chats avec les premiers aliments qui ont présenté soit des problèmes avec une dégénérescence rétinienne, le chat devenant aveugle de manière définitive, soit, et souvent associé d'ailleurs, des problèmes de cardiomyopathie, voire de malformations générales mortelles chez les jeunes. C'est grâce au chat qu'on trouve le rôle de ce nutriment. Et au jour d'aujourd'hui, dans les aliments composés réalisés dans le commerce, on est obligé d'en rajouter à la fin, après les phases de cuisson. Cette taurine n'existe pas non plus dans les produits d'origine végétale. À part donc cette forte besoin en protéines, le chat a d'autres particularités. Ça ne serait pas aussi simple que ça. Il doit en effet trouver dans son alimentation un certain nombre de gras, mais pas tout à fait de gras, d'acides gras, qui sont en fait un des composants de la matière grasse. Alors la matière grasse, bien sûr, il y en a chez les végétaux, chez les animaux. Le chat a la particularité par rapport à l'homme et au chien d'avoir besoin de ces deux acides gras qui se trouvent dans le milieu végétal, qu'on appelle oméga 6, oméga 3, maintenant tout le monde sait un petit peu ce que c'est, qui sont des acides gras essentiels, absolument nécessaires à la vie dans de bonnes conditions. Et la plupart des animaux, à partir de ces acides gras oméga 6, oméga 3, sont capables de les allonger pour fournir des acides gras beaucoup plus grands, absolument nécessaires à la vie. Sauf le chat. Le chat, lui, il faut lui impérativement lui fournir au moins un acide gras un peu plus long, qui l'acide arachidonique, qui, contrairement à son nom, n'est absolument pas d'origine végétale. On pourrait se dire c'est de l'arachide. Non, non. Ça ne se trouve que dans la viande et dans le poisson. Donc, le chat doit aussi trouver dans sa ration de l'acide arachidonique. Ça veut dire que le chat, il va falloir lui fournir, si on fait des rations à la maison, des rations ménagères, un peu d'huile végétale et puis, forcément, du poisson, de la viande, où il va pouvoir retrouver son acide arachidonique. Voilà ce que ça donne un chat avec une carence en acide gras. Ça arrive assez souvent. Ça arrive plus souvent encore chez le chien. Si vous avez déjà vu ce type de chien nourri avec des aliments très très bas de gamme, eh bien ça finit avec des grosses pellicules en fait. Bien, à part ça, encore d'autres caractéristiques chez le chat expliquent qu'il est carnivore. La plupart des espèces, pour se fournir en vitamine A, sont capables d'utiliser ce que vous appelez peut-être la provitamine A. On dit aux gens, si vous voulez bien voir, il faut manger des carottes. Ça rend aimable aussi. Des carottes, des myrtilles, des fruits rouges, des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que dans ces fruits, dans ces légumes, il y a des bêta-carotènes. L'homme, le rat, le chien, le coupe ce composé et fait la vitamine A. Le chat, non. Il ne sait pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Il n'a pas l'enzyme pour faire ça. Ce qui fait qu'on est obligé de lui donner de la vitamine A native. Il ne peut pas du tout utiliser les sources végétales. À nouveau, le chat est obligé de consommer des protéines d'origine animale. Autre exemple, la vitamine D. L'homme synthétise de la vitamine D en se mettant au soleil, en bronzant le matin, etc. Le chien et le chat ne sont pas capables de synthétiser de la vitamine D en se mettant au soleil. On l'a cru pendant longtemps, mais c'était des bêtises. Le chien et le chat doivent consommer de la vitamine D, bon, qui est un composé assez fréquent quand même dans l'univers. Il y a de la vitamine D2 d'origine végétale, qu'on retrouve dans les végétaux, et de la vitamine D3 qu'on trouve dans les animaux. Manque de peau, le chat, là encore, ne s'est pas transformé et utiliser la vitamine D2, la vitamine d'origine végétale. Donc, voilà, manque de peau, il va leur fournir au chat tous ces, c'est quelques exemples, il y en a encore d'autres, de la quantité, qualité des protéines, de la taurine, de l'acide arachidonique, des vitamines A et D3. Et tout ça, il va le trouver grâce au fait qu'il consomme des proies dans la nature. Et d'ailleurs, il passe beaucoup de son temps, lorsqu'on a un chat qui sort, à chasser. Alors, il ne consomme d'ailleurs pas tout ce qu'il chasse et tout ce qu'il tue. Alors, si on reprend la composition du chat, Ben, la composition du chat, on a enlevé l'eau ici pour pouvoir comparer les choses. C'est comme une souris, mais c'est comme un humain aussi, avec un petit peu plus de protéines qu'un humain. Le chat contient sans eau donc 50% de protéines, du gras, presque pas de sucre, des minéraux. Et on va pouvoir le faire vivre, soit en lui donnant une souris, ce qui correspond à peu près à la même composition, soit en lui donnant des aliments différents, donc ici des aliments industriels, un aliment humide, une boîte de conserve, ouais, ça correspond à peu près, mais aussi un aliment sec, c'est un petit peu différent. On voit apparaître ici une beaucoup plus grande quantité de glucides, en quelque sorte d'amidon. Et d'ailleurs, il y a eu un reportage que je n'ai pas vu, mais déjà j'ai été très très interpellée, donc il va falloir que j'essaye de le voir. Comment ça se fait qu'on fait manger de l'amidon à un chat? Eh bien oui, c'est possible, et c'est peut-être pour ça qu'il est domestiqué, comme le chien d'ailleurs. C'est moins évident que le chien, mais c'est une hypothèse qui est étudiée par des scientifiques. Alors, est-ce que le chat est potentiellement capable de manger beaucoup d'amidon? Sûrement pas non plus, il ne faut quand même pas exagérer, c'est pas un cochon. Hein. Donc, il est capable de digérer un peu d'amidon, à condition que cet amidon soit très digeste, c'est-à-dire très souvent cuit. Voilà. Et grâce à l'utilisation de cet amidon, on va faire fonctionner un chat un petit peu différemment, on va dire, que le chat sauvage, puisque à partir de l'amidon qu'il va le recevoir, en particulier dans les croquettes, il va se fournir de l'énergie. Bien, alors, il y a des teneurs maximum à ne pas dépasser dans les aliments en amidon, parce que sinon, au bout d'un moment, le chat ne digère pas. Et puis surtout, le chat ne s'adapte pas. On ne peut pas augmenter la teneur en amidon indéfiniment et lui donner un aliment trop riche en amidon. Alors, avec quoi on le nourrit finalement aujourd'hui? Alors, des croquettes. Les croquettes, pour être capable de faire une croquette, il faut toujours partir de matières premières sèches. Parce qu'on fabrique des croquettes dans des espèces de grands mélangeurs à partir de matières premières en poudre. On les mixe, ça part dans ce que l'on appelle un extrudeur. On fabrique aussi des aliments extrudés chez l'homme, c'est les chipsters et autres que vous avez en apéritif. Et puis ensuite, on obtient, alors à la sortie de cet extrudeur, on coupe en petits bouts, on sèche, on remet à l'extérieur des acides gras essentiels, de la taurine et autres, et ça part en sac et ça devient des croquettes. Quel est l'avantage des croquettes? Ben, l'avantage, il est éthique, je dirais, à plusieurs raisons. Les croquettes, ça va permettre d'utiliser des coproduits, c'est-à-dire des choses qui sont systématiquement fournies lorsqu'on abat un animal en abattoir, lorsqu'on a de la découpe de viande. Vous savez, on valorise que 50% d'une vache, hein, le reste, ce n'est pas utilisable. Et donc, les coproduits sont obligatoires. Alors, depuis la vache folle, il y en a plein qui ne sont plus utilisables. On ne peut utiliser que des coproduits sains sur le plan sanitaire, mais il y a des choses qui, par présentation, ne seront jamais consommées par l'homme. Par exemple, des vaches qui arrivent qui sont trop maigres. Bon, ça, il n'y a pas un boucher qui va acheter une carcasse ou de la viande de vache maigre. Tout le monde sait que c'est dur comme du chien. Donc, voilà. Donc, on va le donner au chat, comme ça, il sera content de manger du chien. Non, c'est pas grave. Bon, donc voilà. Donc, ces croquettes-là, du coup, vont être plutôt moins chères, hein, pas très chères. On va pouvoir, et on va mettre de l'amidon dedans. On ne sait pas faire une croquette sans amidon. Donc, dernièrement, les dernières modes, c'était on fait des croquettes sans céréales. Oui, oui, mais s'il n'y a pas de céréales, s'il y a des pommes de terre, hein, ou autre chose. Mais il y a de toute manière de l'amidon. Et c'est grâce à l'amidon, hein, c'est comme les pop-corns, qu'on fait une croquette. L'autre avantage de la croquette, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors vous allez me dire, c'est plutôt un désavantage, il y a les calculs, etc. Oui, mais la petite mamie au 8e sans ascenseur, elle est bien contente de monter son sac de croquettes sans monter l'eau, parce que l'eau, elle arrive directement au robinet. Voilà, donc ça coûte pas très cher. Ça se conserve facilement sur le plan bactériologique, c'est totalement inerte. Et ça va être facile à distribuer. Les comportementalistes nous disent, la distribution chez le chat, c'est à volonté. Si, moi je distribue à volonté et ça marche très bien. Et la distribution à volonté, c'est facile avec des croquettes, c'est très difficile avec autre chose. Sinon, on a les boîtes. Alors les boîtes, c'est des sachets, des petites boîtes, des grandes boîtes, des barquettes, des trucs, des machins. Enfin, il n'y a qu'à voir la pub, hein, y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En général, ce sont des aliments complets. On a vu que ça contenait beaucoup moins d'amidon en général qu'une croquette, parce qu'il n'y en a pas besoin pour le faire. Et c'est cuit comme une conserve, hein, comme si vous achetiez une lentille saucisse hein, dans votre supermarché. Donc c'est très riche en eau. On a vu que tout à l'heure, c'était sympa pour les animaux qui avaient des problèmes de calcul. On n'a pas besoin d'amidon, c'est très appétant pour les animaux, ils en mangent un petit peu plus, et surtout si on veut donner à volonté, donc on n'a pas l'air très d'accord avec Anne-Claire, mais c'est pas grave, si on veut donner à volonté, c'est très compliqué l'alimentation comme ça, parce qu'on verse, le chat il mange un peu, puis au bout d'un moment il dit bon ça va, j'ai assez mangé, donc il part ailleurs, et au bout d'une demi-heure c'est un peu sec, hein, mais non c'est dégueu là, hein. J'y reviens pas, c'est dégueu, vous les avez tous. Alors, on a comme renseignement sur les aliments composés du commerce un certain nombre de choses. On a d'abord tout ce qui est ingrédients qui ont été mis dedans, qui sont théoriquement classés par ordre décroissant. Donc ici, on a des céréales, des viandes, et des protéines végétales, etc. Deuxièmement, on a un autre renseignement. On a, par exemple, tout ce qui est la composition chimique de l'aliment, les protéines, les matières grasses, etc. Grâce à ça, un nutritionniste est capable de choisir si cet aliment va convenir ou pas au chat. Ce qui ne veut pas dire qu'il sait tout ce qu'il y a dedans quand même, il ne faut pas exagérer. Mais pour faire un dosage exhaustif, parce que les gens me demandent, mais il faut évaluer les aliments là, il faut me dire s'il faut prendre celui-là, celui-là, celui-là. Il y a plus de cuivre, il y a plus de zinc, il y a plus... Oui, le dosage exhaustif de tous les nutriments dans un aliment, ça coûte 2000 euros. Donc autant dire qu'on a intérêt quand même à faire confiance dans les gens qui étiquettent. Et donc, c'est légalement défini hein, ce qu'ils ont le droit de marquer et comment ils ont le droit de marquer. Et donc, si ça n'est pas respecté, ils sont susceptibles d'être mis au tribunal. Bon, si vous n'avez vraiment pas confiance dans ça, vous pouvez toujours faire ration ménagère. Bon, ration ménagère, ça pose deux soucis. Un problème éthique, on est un peu concurrent quand même des matières premières de qualité humaine, mais ça peut bien servir pour plein de raisons. On peut avoir un animal malade. Hein, qui a éventuellement plusieurs maladies. Vous savez qu'il y avait des aliments spécifiques pour les animaux malades, mais quand on fait une ration comme ça, on est sûr de ce que l'on donne. On peut calculer à l'oligo-élément près, au gramme près, ce que l'on donne, à condition de le faire calculer ou de le calculer soi-même, si on est doué. Et on va mettre donc surtout de la viande et du poisson pour un chat. Un petit peu de riz cuit, mais ce n'est pas obligatoire, sauf pour les mamans... en gestation, lactation et les petits en croissance, un chouïa de légumes verts pour le transit, un peu d'huile de colza pour les acides gras essentiels, sinon l'huile de noix c'est bien aussi, mais c'est un peu plus cher. Et puis surtout, ne pas oublier ça, de rajouter un aliment minéral et vitaminé, parce que dans ce type de ration, il n'y a pas d'os, et le chat, s'il mange ça sans ces petits aliments, qui en général il n'aime pas trop d'ailleurs, un peu en poudre, il risque d'être carencé en calcium, et ça se finit très mal. Ça se finit, une grosse carence en calcium sur un animal en croissance, ça se finit en euthanasie. On ne peut rien faire d'autre. Et puis, il y a la nouvelle mode. Vous avez tous entendu parler de ça. Le BARF. Alors, le BARF, c'est quoi ? Mais c'est une petite variante de l'alimentation ménagère. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre le BARF et l'alimentation ménagère ? Mais il y a deux choses. D'abord, on met en général dans le BARF que des aliments crus. Bon, ça, c'est le postulat de base, ou le prestulat de base, ce que vous voulez. Donc, que des aliments crus. Donc, évidemment, le riz cru, ça ne passe pas. Donc, pas de riz et pas d'amidon en général, puisque la plupart des amidons ne sont utilisés que chez le chat qu'une fois cuit, à part la banane. Bon, enfin, on peut faire des rations bananes, pas de problème. Les légumes verts, c'est pareil. Dans le BARF, il est cru. La plus grosse différence, elle se situe ici. C'est dans les sources de viande et de poisson qu'on va aller chercher. Donc là, on devine une ration BARF. Alors là, il y a un petit peu de yaourt, là, il y a un petit peu de banane. Ça, c'est des légumes râpés. Là, il y a un petit cachet de je ne sais pas trop quoi. Enfin bon, je ne sais rien. Et la source de viande ou de poisson, là, c'est des grosses cuisses de poulet avec contre-cuisse. Bon, OK. Ça, c'est bien identifié. Bon, c'est juste une variation d'une ration ménagère. Et la personne a mis juste une matière première de qualité humaine. Je ne vois pas vraiment de différence abyssale, sauf que c'est cru, avec ma ration habituelle. Par contre, le BARF, ça peut être ça aussi. Vous voyez ce que c'est, ça ? Ces petits poussins d'un jour. Bon. Eh oui, ah bah oui. Alors, ça peut être super. Le chat mange bien des oiseaux entiers, hein, donc voilà, on ne va pas non plus s'offusquer, voilà, c'est comme ça. Mais ça pose un autre problème. Ça pose un vrai problème sanitaire. Je m'explique. Ce qui n'est pas consommé dans un abattoir, ce qui n'est pas consommé dans un atelier de découpe, quand on fait les barquettes, les machins, tout ça est récupéré, gardé en permanence sous la chaîne du froid et livré dans des conditions extrêmement pointues pour faire des farines de viande qui vont faire l'alimentation chien-chat. Il n'y a pas de rupture de la chaîne de froid. Au jour d'aujourd'hui, on a un petit problème, c'est que des opérateurs assez peu identifiés peuvent très bien aller acheter des bouts de je ne sais pas trop quoi dans un abattoir, des déchets, les reconditionner et les vendre. Et ça pose un vrai problème. Je pense que là, tant qu'il n'y aura pas trop d'accidents, il n'y aura pas trop de législation, mais enfin, on ne peut pas tout contrôler non plus. Je pense que ça sera bientôt interdit de récupérer hein, des déchets de découpe. Et du coup, il y a eu plein d'accidents sanitaires, que ce soit chez les animaux, avec des parasites, des virus, des bactéries, et chez l'homme, en particulier, avec de la salmonellose. Donc, il y a déjà eu des gens... Donc, si vous avez des gens immunodéprimés chez vous, des enfants, des personnes âgées, des gens aussi, éventuellement, autres problèmes, ne faites pas ça. Allez acheter de la bonne viande, là. Voilà, parce que là, il n'y a pas de salmonelle, beaucoup moins. Voilà. L'autre problème du barf, on peut en faire du très bon, mais c'est qu'on ne connaît pas forcément très très bien les ingrédients qu'on utilise, et en particulier ces sources de viande ou de poisson. Donc il faut souvent demander à faire une analyse chimique pour savoir ce qu'il y a dedans, pour être capable d'équilibrer le régime des animaux. Et la souris, la souris c'est parfait. Mais le chat, c'est très bien. La souris, on a dit, ça correspondait totalement à la composition chimique du chat, hein, nickel. En plus, en général, le chat consomme à peu près tout. Donc, il a des fibres, il a de l'os, il a des protéines, il a du gras, très peu de sucre. Et donc, tout va bien. Bon. En termes de chasse, il est ravi. Hein, chasser une souris, c'est quand même fun. Mais enfin, il y a des débiles. Hein. Les chats débiles, il va falloir aussi les nourrir. Et puis, ceux qui ne peuvent pas sortir, ceux qui sont en ville, il va falloir aussi les nourrir. Donc, il y a une personne qui commençait à m'énerver avec les croquettes et les boîtes. Je leur ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que votre chat soit parfaitement heureux, vous allez m'acheter une caisse de souris vivantes, parce que sinon, c'est pas drôle, et vous les lâchez au fur et à mesure. Voilà. Donc, voilà. Je rappelle que le chat est un gros carnivore et que, de toute manière, on n'en sortira pas. Ils peuvent essayer de faire ce qu'ils veulent en faisant des régimes végétariens. Ils n'y arriveront pas. Chez le chien, ça se discute, mais chez le chat, sûrement pas. Et donc, attention aux dérives anthropomorphiques. Le chat est un chat. Il mange des proies, si possible vivantes, c'est beaucoup plus rigolo. Et à la maison, eh bien, il va falloir leur fournir des aliments adaptés à sa physiologie. Voilà, je vous remercie.